La barbe bleue. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne. De la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage et lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elle n'en voulait point toutes deux et se le renvoya l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui avait la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore plus, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait pas ce que ces femmes étaient devenues. La barbe bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère et trois ou quatre de leurs meilleurs amis et quelques jeunes gens du voisinage à une de ces maisons de campagne où on demeure 8 jours entiers. Ce n'était que promenade, que partie de chasse et de pêche, que danse et festins, que collation. On ne dormait point et on passait toutes les nuits à se faire des malices, les uns les autres. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, la barbe bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage de province de 6 semaines au moins, pour des affaires de conséquence, qu'il la priait de bien se divertir pendant son absence, qu'elle fît venir ses bonnes amies, qu'elle les mène à la campagne si elle voulait que partout elle fît bonne chère. « Voilà, lui dit-il, la clé des deux grands garde-meubles. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent, qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle des coffres-forts, où est mon or et mon argent. Celle des cassettes, où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet, au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez toutes, allez partout, mais pas ce petit cabinet, je vous en défends d'y entrer. » Et je vous les défends de toutes sortes que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne devrez attendre de ma colère. » Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné. Et lui, après avoir l'embrassé, il montit dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisins et les bonnes amies n'attendirent pas que les envoyât acquérir pour aller chercher la jeune mariée tant elle avait d'impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n'ayant osé y venir pendant que son mari y était, à cause de sa barbe bleue, qui le faisait peur. Les voilà aussitôt parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite aux garde-meubles, et elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets de guéridon, des tables et des miroirs, où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête, et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elles ne cessaient d'exagérer et d'envier le bonheur de leur amie, qui cependant ne se divertissait point à voir toutes ces richesses, à cause de l'impatience qu'elle avait d'ouvrir le cabinet de l'appartement bas. Elle fut si pressée de sa curiosité qu'elle s'en considérait qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie. Elle y descendit par un petit escalier dérobé et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou 2 ou 3 fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps et songea à la défense de son mari lui avait faite. Elle considérant qu'il lui pourrait lui arriver un malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé et que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long du mur. C'étaient toutes les femmes que Barbe Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées les unes après les autres. Elle pensa mourir de peur et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir Peu reprit ses esprits, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu. Mais elle n'en pouvait venir à bout, tant elle était émue. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya deux ou trois fois, mais le sang n'y s'en allait point. Elle eut beau la laver et même la frotter avec du sablon et avec du grès, il y demeura toujours du sang car la clé était faite. Il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. La Barbe Bleue revint de son voyage dès le soir même et il dit qu'il avait reçu des lettres dans le chemin qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, elle lui redemanda les clés et elle les lui donna. Mais d'une main si tremblante qu'il devina ses peines tout ce qui s'était passé. « D'où vient, lui dit-il, que la clé du cabinet n'est point avec les autres ?»« Il faut, dit-elle, que je l'ai laissée là-haut, sur ma table. »« Ne manque pas, dit la Barbe Bleue, de me la donner t'autant. » Après plusieurs remises, il fallut apporter la clé. La Barbe Bleue, n'ayant considéré, dit à sa femme, « Pourquoi il y a du sang sur cette clé ?»« Je n'en sais rien, répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. « Vous n'en savez rien ?» répondit Barbe Bleue. « Je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet. « Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. » Elle se jeta aux pieds de son mari en pleurant et lui demandant pardon avec toutes les marques d'une vraie repartie de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle l'était, mais la Barbe Bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. « Il faut mourir, madame !» lui dit-il. « Et tout à l'heure !»« Puisqu'il faut mourir, répondit-elle en le regardant les yeux baissés de larmes, « donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. Je vous donne une demi-heure !» reprit la Barbe Bleue, mais pas un moment davantage. Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit « Ma sœur, Anne !» car elle s'appelait ainsi. « Monte, je t'en prie, sur le haut de la tour, pour voir si mes frères ne viennent pas. Point. Ils m'ont promis qu'ils me viendraient voir aujourd'hui. Et si tu les vois, fais leur signe de se hâter. » La sœur Anne monta sur le haut de la tour. Et la pauvre affligée lui criait de temps en temps. « Anne, ma sœur, Anne ! Ne vois-tu rien venir ?» Et la sœur Anne lui répondit. « Je ne vois que... rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Cependant, la Barbe Bleue, tenant un grand côtelas à sa main, criait de toutes ses forces à sa femme. « Descends vite ou je monterai là-haut !»« Encore un moment, s'il vous plaît !» lui répondit sa femme. Et aussitôt, elle criait tout bas. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et la sœur Anne répondit. « Je ne vois que le soleil qui poudre l'herbe et qui verdoie. »« Descends !» « Donc, vite !» cria Barbe Bleue, « ou je monterai là-haut !»« Je m'en vais !» répondit sa femme. Et puis elle criait, « Anne, ma sœur, Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois !» répondit la sœur Anne, « une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Ce sont mes frères ?»« Hélas, non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. »« Tu ne veux-tu pas descendre ?» cria la Barbe Bleue. « Encore un moment !» répondit sa femme. Et puis elle cria, « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois, répondit-elle, deux cavaliers qui viennent de ce côté-ci, mais ils sont bien loin encore. Dieu soit loué !» s'écria-t-elle un moment. Après, « Ce sont mes frères, je leur fais signe tant que je suis de se hâter. » La Barbe Bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds toute déplorée et tout achevée. « Cela ne sert à rien !» dit la Barbe Bleue. « Il faut mourir !» Puis, la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre levant le couteau en l'air, il allait lui abattre la tête. La pauvre femme se tourna vers lui et le regarda avec pour se recueillir. « Non, non » dit-il, « recommande-toi bien à Dieu !» Et levant son bras, tout ce moment, on heurta si fort à la porte que Barbe Bleue s'arrêta tout court. On ouvrit et aussitôt on vit entrer deux cavaliers qui montaient l'épée. Et les mains courant droit à la Barbe Bleue, il reconnut Mousquetaire, de sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver. Mais les deux frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron. Ils lui passèrent leur épée à travers le corps et le laissèrent mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Il se trouva que Barbe Bleue n'avait point d'héritier et qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier sa sœur Anne avec un jeune gentilhomme dont elle a été aimée depuis longtemps. D'une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses deux frères et le reste à se marier elle-même. Elle a un fort honnête homme qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé à voir la barbe bleue. Moralité, la curiosité, malgré tous ses entrains, coûte souvent bien de regrets. On en voit tous les jours 1000 exemples paraître. C'est n'en déplaisant au sexe, au plaisir bien léger, dès qu'on le prend, il cesse d'être, et toujours il coûte trop cher. Autre moralité, pour peu qu'on l'esprit cesse et que du monde on sache le grimoire, on voit bientôt que cette histoire est un conte du temps passé. Il n'est plus d'époux si terrible, ni qui demande d'impossible, fut malcontent et jaloux, près de sa femme on le voit filer doux. Et des quelques couleurs que sa barbe puisse être, on a à peine à juger que des deux on est le maître. Fin.
La barbe bleue de Charles Perrault.